Quand j'étais toute jeune pratiquante, peut-être ma quatrième ou cinquième session, enfin je veux dire, j'étais pas très expérimentée. J'arrive pour la talk comme ça, et c'était le maître de mon maître qui donnait le talk ce jour-là. Et je ne me souviens pas très bien comment il a présenté la chose, mais il racontait un comment qu'à l'époque je ne connaissais pas. Plus tard, je l'ai retrouvé et j'ai travaillé dessus, mais bien plus tard. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas. Et la seule chose, seulement plus tard, j'ai su tous les détails du Coran. Mais au moment, quand c'était arrivé, seule chose que j'ai retenue, c'était qu'il y avait un maître qui arrivait pour faire le talk, qui a pris sa place et puis qui est descendu. Et c'était tout. Et quand j'ai entendu ça, j'étais bouleversée. J'ai passé l'après-midi à pleurer après ça, cette histoire, après avoir entendu ça. Car soudain, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai réalisé que je me suis égarée totalement. Je croyais que la pratique s'agissait d'autre chose, que j'allais devenir quelqu'un, ou que j'allais obtenir quelque chose, ou qu'il y avait quelque chose à dire, où il y avait quelque chose à savoir, que j'allais être autre. En fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça, qu'il s'agissait que de ça, que le talk de ce jour-là, ce maître qui vient, il avait donné un talk, juste ça. J'étais bouleversée parce que je voyais toutes mes idées, mes illusions éclater. Je dis ça, je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à cette histoire depuis très longtemps. Et pendant longtemps, je ne connaissais pas ce Coran. Et dans le peu de choses que j'ai lues ou les talks que j'ai entendus, personne ne faisait mention de ça. Je ne savais pas ce que c'était. Je pense que j'avais, de temps en temps, quand je voyais le maître de mon maître, je lui demandais, mais c'était quoi ce Coran-là? C'était quoi cette histoire? Et je sais pas, il me dit, je ne sais pas, ou il m'avait jamais donné une réponse satisfaisante. Et plus tard, quand j'ai rencontré le Coran dans mes études de Coran, c'était pas exactement comme je me souvenais. L'essence était le même, mais c'était plus élaboré, etc., etc. Mais l'essence était le même. Mais j'étais dans un autre moment de ma pratique, j'avais vécu d'autres choses, etc. Donc ça ne faisait pas le même effet, sauf que ce souvenir de ce bouleversement y était toujours. De cette expérience directe de soudain, tout était devenu clair. Notre discussion ce matin, à propos de l'Oriyoki, m'a fait penser à ça. Et m'a fait penser aussi à un autre camp, qui est une autre histoire, qui est assez connue, célèbre, mais peut-être un des camps les plus autour duquel il y a le plus de malentendus. C'est souvent raconté et tourné en dérision, ou pas compris, ou etc. etc. Donc, mais c'est exactement ce qui se passait ce matin. Et donc, dans ce camp, dans cette histoire, il y a, dans un monastère, un groupe de moines qui sont en vive discussion sur un chat. Et c'est dit que les moines du L. Al Est et Al Ouest ou Al Ouest se disputent un chat sur un chat. La nature de cette dispute n'est pas précisée, ce n'est pas clair si c'est une dispute à propos de la propriété, à qui appartient le chat, ou si c'est à propos de si le chat, qui doit donner à manger au chat, si c'est à propos de la nature du chat, si c'est à propos de l'existence même, est-ce que le chat existe ou non, si c'est une histoire métaphysique, pratique, etc. Ce n'est pas précisé. Ça ne fait rien. Le maître arrive et il prend le chat et il dit, si quelqu'un ici peut dire un mot de zen. J'épargne le chat. Si personne peut dire quoi que ce soit, je le tue. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Personne ne dit quoi que ce soit et il tue le chat. Plus tard, ses disciples qui n'étaient pas là arrivent et c'est son disciple qui va devenir son successeur et qui vient à la suite d'un grand maître, c'est Joshu. Il arrive. Le maître, qui s'appelle Nansen, raconte l'histoire. Et Joshu enlève sa chaussure, son sandal, le met sur sa tête et s'en va. Et le maître dit, c'est dommage que toi, tu n'étais pas là ce matin, parce que si tu étais là, j'aurais pu épargner le chat, la vie du chat. Alors, c'est souvent pas compris ce courant. Il y en a qui disent, oh, c'est horrible de tuer un chat pour une histoire pareille, c'est dur, il n'y a pas de compassion, etc. Il y en a qui trouvent ça très rigolo. Il y en a qui disent, oh, qui prennent cette action de Joshu comme étant quelque chose d'absurde. Et donc le zen, c'est juste quelque chose. Il faut juste être absurde. Plus absurde, meilleur que c'est. Le fait est que ce n'est pas du tout absurde, que ce n'est pas du tout un manque de compassion de la part de Nansen, qu'il ne s'agit pas de cruauté vers les animaux, etc., etc. Toutes les idées qu'on peut avoir là-dessus. Est-ce que dans ça, vous pouvez entendre les résonances de notre discussion ce matin? Et on peut trouver. J'ai pris cet exemple simplement parce que c'est saisissant et on était tous là à participer. C'est tout le temps. Ça se passe tout le temps. Dans toutes nos interactions, dans nos têtes, à notre fort intérieur, dans nos interactions avec des autres, dans toutes les situations. C'est toujours ainsi. Ça revient aux questions que j'allais poser de nouveau aujourd'hui. Est-ce que c'est le matin ou est-ce que c'est l'après-midi? Ça revient à ça aussi. Alors, ce fameux formule, un mot de zen, il y a différentes traductions à ça, de ça aussi. La traduction qu'on utilise souvent, c'est si vous pouvez dire, si quelqu'un peut dire un mot de zen. Parfois, c'est traduit simplement si quelqu'un peut dire quelque chose. Il y a différentes traductions, évidemment, parce que c'est traduit du chinois. Chinois, ça se laisse beaucoup d'interprétation dans les traductions. En tout cas, les faits, apparemment, sont véritables. Peu importe si on dit un mot de zen ou juste un mot. Un mot, c'est un mot de zen. Et quand on dit un mot de zen, c'est une indication de quelque chose qui transcende ces dualités de est-ouest, gauche-droite, bien-mal, falloir-ne pas falloir, ici et là, si on peut dire quelque chose qui transcende ça, ces dualités. Et quand je dis que ça, il s'agit pas simplement d'une histoire d'un chat dans un monastère au 9e siècle en Chine, il s'agit de notre vie à chaque instant. Parce que chaque instant, quand on tombe dans ces dualités, on tue notre vie. On tue la vie de cet instant. On se fixe quelque part. On ne laisse pas émerger ce qui est. On ne voit pas qu'il s'agit de cette pratique n'est autre que toi, de ta vie, telle que c'est. Ce n'est pas, comme j'ai dit, c'est pas facile à avaler ça, cette réalisation. Ça enlève tout espoir. Quand on voit ça, c'est pour ça que j'étais désespérée. Je n'avais plus d'espoir de devenir quelqu'un d'autre. Ni avec ça. Mais, comme je dis souvent, c'est aussi la bonne nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. On n'a pas à être quelqu'un d'autre. On n'a pas. Rien est manquant ici. C'est que ça. Après ma mauvais quart d'heure, comme on dit, pendant cette session où j'étais dévastée pendant l'après-midi, ça basculait. Après. Et c'est pour ça que j'étais fascinée par cette histoire, par ce Coran. Mais en fait, comme je dis, avec ces formes, ça n'a rien à voir avec ce Coran. Quand j'ai revu ce Coran, ça ne me faisait pas le même effet. C'était dans cet instant-là que ça s'est passé. Et après, je pouvais essayer de lire ce Coran à répétition et ça ne me faisait plus du tout cet effet. L'action de Joshua dans ce Coran, c'est dans cet instant-là. Si d'autres, quand ils me présentent ce Coran, se mettent à mettre leur sandales sur la tête, ben je sonne la cloche tout de suite. Non. Et crois-moi, il y en a qui essaient ça. Hein, en fait. Peut-être même moi, je ne me souviens plus ce que j'avais fait pour ce Coran. Et il y en a qui essaient de faire quelque chose d'un peu ésotérique ou même intellectuel vis-à-vis de ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bodhidharma, qui a amené les enseignements bouddhistes de l'Inde en Chine, et qui est considéré comme le premier maître zen, proprement dit, c'est un peu un truc comme avec le Christ, quand il a été mort, quand il est mort, quelques jours après, quand ils ont retourné à son corps, il y avait un sandal qui manque. Non, son corps n'y était plus, mais il n'y avait qu'un sandal qui restait. Et donc, c'était une façon de... On disait qu'il est retourné en Inde, mais avec un seul sandal. Et donc, on dit, dans l'action de Joshua, il y avait référence à Bodhidharma avec sa sandal sur la tête. Non. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. D'avoir une expérience directe de l'essence de cette histoire, de ce Coran. De recevoir le toc du maître qui monte et qui descend sans rien dire, on n'a pas besoin de savoir qui il est. Moi, j'ai aucune idée, je ne peux même pas aujourd'hui savoir qui il est. Ni où ça s'est passé, comment il était habillé, combien de gens il y avait dans l'assistance, quelle température il faisait, quelle taille était la pièce, à quoi ça ressemblait la place. Aucun intérêt, tout ça. Et dans notre discussion sur les l'Oryoki, qu'est-ce qui nous animait, quelles étaient nos intentions, est-ce qu'on a appris quelque chose, est-ce qu'on voyait quelque chose, est-ce que toutes sortes de possibilités dans ça. C'était trop beau pour le laisser passer. Ce matin, je ne pouvais pas laisser passer. C'était trop beau. C'était un cadeau. Mais, je répète, c'est la même chose tout le temps. Si on prête attention, on retrouve cette même histoire répétée partout, tout le temps. Alors, ça nous amène à quand j'ai dit, quand on se fixe dans ces dualités, on perd forcément quelque chose, notre vie, disons. Il revient à ça, en fait. Si on est là, à discuter de si le chat appartient à côté est ou à ouest, on ne voit pas vraiment le chat. Si on est là, demander où est-ce qu'il faut ranger le seau, le seau m'appartient, pas, ça n'appartient pas à toi, etc., etc. Le seau, on ne s'en sert pas pendant ce temps-là. Et si on voyait ça autrement, si on voyait, si on prenait cette... j'hésite à dire transcendant parce que ce n'est pas transcendant. En fait, c'est le contraire, c'est d'être vraiment au cœur. C'est la voie du milieu, comme on dit. C'est vraiment au cœur. Si plutôt que de se pencher d'un côté ou de l'autre, on est au milieu. Et pas au milieu ni l'un ni l'autre. Pas au milieu au-delà. Pas au milieu je m'en fous de l'un ou l'autre. Au milieu où ça inclut les deux. Et pour ça, ça revient à cette question de qui. Donc, qui est de ce côté ou l'autre? En fait, pendant mes vacances, j'ai fait un rêve très étrange. Où mon maître me posait ce coran de non-sain et le chat. J'ai déjà passé ce coran il y a longtemps. J'ai travaillé sur ce coran avec beaucoup, beaucoup de gens. Mais dans ce rêve, il y a quelques semaines, mon maître est là et elle me pose ce coran. Je lui présente quelque chose. Et en fait, elle ne refuse pas ma présentation, mais elle me présente d'autres choses. Et ce qu'elle me présente, c'est l'amour. Et je me suis réveillée de ce rêve et je me dis, mais bien sûr. L'amour. Et quand je dis l'amour, c'est la seule possibilité. Si on est fixé sur soi-même, mes préoccupations. Il y avait un exemple ce matin dans l'Oriyoki, encore une fois, l'Oriyoki, c'est formidable. J'observais quelqu'un qui hésitait à quoi faire avec sa bol. S'il faut le lever pour le temps au serveur, ou s'il faut le laisser poser, ou le serveur hésitait aussi. Et donc, finalement, il est laissé poser. Et puis j'ai vu que la personne après lui a fait la même chose. Et je voyais, confirmé après, parce que j'ai discuté avec la personne après, parce que c'était aussi très instructif comme incidence, parce que je j'ai vu ce qui se passait. Si on est fixé sur soi-même et ce qu'on pense bien faire, on est préoccupé par quelque chose qui devient assez complexe de ce qu'il faut faire pour aider l'autre, mais en fait, on n'aide pas du tout quand on fait ça. Et si, plutôt que de faire ça, on pensait simplement ce qu'il y a à faire, et je fais ça pour, je fais ce qu'il y a à faire pour aider l'autre. Pas parce que, est-ce que vous me suivez là? Je fais ça par amour. Pas pour moi-même, mais pour les autres. Je fais ce qu'il y a à faire, pas pour moi-même. Pas pour que j'ai l'air bien. Pas pour dire que je sais comment il faut faire. Non plus parce que je vais être bien parce que j'aide l'autre. C'est par amour que je fais ça. Nansen, il tue le chat par amour. C'est difficile de comprendre. Ça ne peut pas être compris. Et puis l'autre qui observe ce que je fais va suivre. Il ne s'agit pas de moi là. Moi je ne fais pas ces choses-là parce que il s'agit de moi. Il s'agit des autres. Et ça s'agit de moi, bien sûr. Mais je suis les autres. Donc, entendons bien, hein, c'est quand on agit de cette façon-là, on n'est plus attaché à soi en être que en identité séparée des autres. On crée, tout un chaîne qu'on appelle karmique. Quand on reste dans les dualités. Quand on les moines qui n'arrivent pas à lâcher leurs attachements est-ouest. Je réduis ça à est-ouest parce que quand on s'est spécifié comme ça. Il y a tout un chaîne karmique qui crée à la suite de ça. Le plus direct, c'est que le chat est tué. Mais il y en a plein d'autres qui vont être créés. Dans notre vie, j'ai l'exemple de quelqu'un que je connais qui dans sa jeunesse, qui pratiquait le bouddhisme tibétain très sérieusement et était devenu très proche de son maître. Et servait son maître avec dévotion. Et pour se consacrer vraiment à sa pratique et à servir son maître, il a trouvé une combine pour ne pas être prise par le travail. Il ne voulait pas travailler parce que s'il travaillait, il ne pouvait pas être pratiqué et être avec son maître. Et donc, sa combine était qu'il vendait du cocaïne. Ça ne prenait pas beaucoup de son énergie, de son temps. Il avait plein de temps libre pour pratiquer, pour être avec son maître. Il était à un niveau assez haut dans la vente de cocaïne, donc il n'avait même pas à trop dealer avec des truands, les petites merdeux, etc. Il était placé assez haut placé. Et un jour, il est arrêté parce que quelqu'un plus bas que lui lui a, entre guillemets, trahi. Pour alléger son propre peine, cette personne, les policiers ont dit, « Ok, si tu nous dis qui te donne ça plus haut que toi, si tu nous vends quelqu'un plus haut, toi, tu seras épargné. » Et donc, cet ami est arrêté. Les flics lui font le même proposition. Si tu nous dis les gars plus haut, tu auras une petite peine à purger, mais pas très grave. Sinon, tu risques 25 ans en prison. Parce que c'était des sommes assez importantes de cocaïne. Cet homme, il a un petit enfant qui n'a même pas 5 ans. Il a une femme. Il est dévoué à son maître, à sa pratique. Il réfléchit, est-ce que je vends les autres pour passer peut-être 2 ans en prison, un truc comme ça, et puis je suis libre. Et finalement, il dit non. Non. Je prends ma responsabilité. Il ne s'agit pas d'incriminer quelqu'un d'autre pour sauver ma peau. C'est moi qui prends une responsabilité pour ce que j'ai fait. Et donc, il est envoyé au prison pour 25 ans. Donc déjà, on voit les conséquences de nos actions. C'est ce qu'on appelle le karma. À la suite de ça, quand il est en prison, c'est horrible. Il partage une cellule avec 4 mecs. Il fait chaud tout le temps. Il n'y a pas d'air. Les télévisions sont allumées 24 heures sur 24. Toujours du bruit, toujours de chaleur, aucune tendresse, aucun amour. Les mecs s'engueulent entre eux, terrible violence, il faut sauver sa peau, il faut trouver des combines pour ne pas être blessé, impliqué, etc., etc. Et lui, il se met, il dit vraiment à méditer. Et jusque-là, ces années qu'il avait pratiquées avant, il n'avait jamais vraiment médité. Que comme il faisait en prison. Il faisait sur son lit pendant que les autres gueulaient ou regardaient la télé, en pleine sueur. Il a trouvé un endroit où on gardait les. Il avait les tâches ménagères, comme ici. Et donc, l'endroit où on rangeait les balais, etc. C'était un endroit enfermé, en paix, où il pouvait méditer. Et donc, il allait dans ce placard pour méditer. Petit à petit, une chose mène à l'autre, etc. Et il commence à travailler dans l'hôpital de prison. Et là, il rencontre une souffrance terrible. C'était quand l'épidémie de sida était en plein boom. Évidemment, il y a plein de gars en prison qui ont un sida. Il commence à travailler avec ces gens qui ont le sida. Sa pratique lui aide à être avec ces gens qui sont mourants, souffrants, à juste être là. Ce qu'on appelle le soigne contemplatif des gens mourants, malades, etc. Il apprend à d'autres gens de faire ça aussi. Il apprend à d'autres gens à méditer aussi. Il prend contact avec des maîtres en liberté qui s'arrangent pour lui envoyer les bouquins. Et donc, il constitue une petite bibliothèque où les autres prisonniers peuvent lire aussi les choses bouddhistes. Il prend contact avec des gens dans d'autres prisons qui lancent aussi des groupes de méditation dans les prisons. Il crée un réseau national aux États-Unis. Des gens qui méditent en prison, il y a des maîtres qui viennent pour les soutenir. Il reçoit Dukai, cet homme. Un maître zen vient et lui donne Dukai en prison. C'est-à-dire qu'il prend les vœux de reconnaître que sa vie est ça, c'est son chemin. Il a le droit de sortir une fois pour l'enterrement de son père. Et après 20 ans, de temps en temps, il voit son fils qui grandit, qui vient de visiter, ou je crois. Il a vu à l'enterrement de son père, je ne sais pas. Et après 20 ans, il sort. Et il commence à enseigner la méditation aux autres gens. Il commence à enseigner aux gens comme nous comment aider les gens en prison, comment travailler avec des gens qui sont mourants, qui ont sida, etc. Et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il a du bon karma ou du mauvais karma? Est-ce que le fait qu'il soit arrêté pour vendre la cocaïne est une bonne chose ou une mauvaise chose? On ne peut pas juger comme ça. Là, c'est tombé dans les dualités. Ce qui est vrai, c'est que face à ce courant de sa vie, il a transcendé les dualités en vivant pleinement ici maintenant. C'est ça les ingrédients. Qu'est-ce que je fais avec? C'est un exemple extrême. La même chose est vraie pour nous tous. Bien sûr, dans la vie de cet homme, il y a des conséquences qui continuent. Il n'y a pas longtemps, son fils, qui a maintenant, je ne sais pas quel âge, probablement presque 30 ans, je ne sais pas. Son fils, évidemment, c'était compliqué d'avoir un père en prison. Et sa mère était de l'Amérique latine, je crois, du Pérou, je ne sais pas, et donc la famille était divisée, etc., etc., Les conséquences karmiques continuent dans la vie de son fils. Peu importe la situation, peu importe les ingrédients, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça le but aussi de faire la cuisine ici. C'est ok, voilà les ingrédients, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je peux utiliser ici? En essayant de ne pas se fixer dans les, comme on disait, les préférences, de ne pas se fixer dans les idées bien mal. Si on demande, oui, Moi, je n'aime pas les flocons d'avoine, moi, je n'aime pas le cannelle, moi, je n'aime pas ceci. Non, c'est interminable. Et à quoi bon ? Si Fleet, mon ami, a passé ses 20 ans en prison en disant « je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, je n'aime pas ce mec-là, je n'aime pas ce mec-là », etc., etc., bah, ok, bon. On peut passer 20 ans comme ça. En fait, on passe nos vies plus ou moins comme ça. Et donc, le charmeur. Et on peut aussi voir ce Coran comme l'acte de tuer le chat, c'était une ancienne tuer des dualités. Parfois, ça prend cette forme-là. Tuer les dualités. Tuer dans le sens donner vie à la non-dualité, à le non-attachement à moi, parce qu'en fait, oui, ce moi-là, dont on est tellement attaché, à qui on est tellement attaché, doit mourir. C'est vrai. Mais ce n'est pas mourir comme on pense. Et c'est là où vient l'histoire d'amour. Est-ce que vous avez des choses à dire?
Oui. Je viens parce que je me sens un peu confuse. Et si je peux, j'aimerais exprimer d'où je partais ce matin. C'était pas, je pense pas, d'un point de vue d'avoir raison. C'était.
À quel moment ?
Quand on parle de la vie. Okay. C'est vrai que d'une certaine façon, je suis attachée à cette forme. Bon, ceci dit, ça se passe autrement, mais ça se passe bien. Je veux dire, j'en fais pas une maladie, mais j'essaye que ça se passe bien. Pourquoi, en fin de compte? Parce que je viens tellement d'un endroit sans forme, où les formes n'avaient aucune importance, c'était, enfin, moi intérieurement, à la façon dont je crois j'ai presque toujours vécu, c'était le moins de formes possible, et les formes s'emprisonnaient, etc. Et tout d'abord avec l'intensif, j'ai découvert une immense liberté dans ces formes, dans les formes, quelle qu'elle soit. Et après, les formes de cette pratique, et oui, je m'y suis attachée. Mais je m'y suis attachée parce que, alors, je vous ai midi à ma porte, en fait. Parce que...
Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Midi à ma porte, c'est... Je sais pas comment dire.
De son point de vue, ouais, de ton point de vue.
Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai vu combien le respect de forme pouvait être important, pouvait m'aider. Et donc, j'en déduis que ça peut aider aussi d'autres personnes, le respect des formes.
Et le respect des formes étant quoi ? Comment ça se manifeste ?
Bah, essayer de faire le mieux possible comme j'ai appris. Et puis peut-être ici, et peut-être à tort, je ne sais pas, essayer d'expliquer le mieux possible et le plus j'allais dire de façon pas trop directive, j'essaye en tout cas, je sais pas si je réussis, mais essayer de montrer tout ça. Voilà, donc si c'était clair pour moi, et peut-être que ça l'est de façon inconsciente, j'en sais rien, mais si c'était clair pour moi que c'était juste le fait de moi avoir raison, etc., ça serait clair. Là, c'est pas pour avoir raison, c'est parce que je me suis rendu compte que pour moi, personnellement, ça m'a été, je dirais même, ça m'a sauvé des fois. Voilà. Donc, alors est-ce que, et je me sens confuse parce que est-ce que. Alors oui, je suis attachée aux formes d'une certaine manière. Et est-ce que c'est bien ou mal? Je suis en train de me demander, je rigole toute seule. Bon, voilà.
Pour mettre ça d'un point de vue, généraliser la question, c'est ces formes existent. Donc dans la pratique, il y a toutes ces. Tous ces rituels, de passer là, faire un pas de côté. Et du coup, là, moi, les formes, c'est un peu l'opposé, mais je peux comprendre l'utilité de le faire, je vois pourquoi. Et je me dis, à un moment, effectivement, si on arrête de respecter la forme, tout fades away, ça n'est plus. Donc on perd. Hein. Ça. Donc après on fait, on pourra se mettre à faire des tours, je sais pas, à faire ce qu'on veut. Donc comment on fait pour et faire ça et être dans la forme sans être dans la forme? Pourquoi elle existe et pourquoi si on accepte de dévier un peu, on peut dévier complètement? Voilà, je sais pas, je demande.
D'accord. Finalement, ça pose quand même le problème aussi entre les formes à suivre et le problème de la dualité. Il y a quelque chose là qui n'est pas forcément facile à capter entre cette idée que la dualité, ce n'est pas la voie du milieu, ce n'est pas la bonne voie. Et la forme, je trouve que moi j'ai toujours aussi un souci avec les formes et parce que je suis vraiment convaincue que la dualité ça mène à des impasses, mais malgré tout je trouve que c'est pas clair savoir où on s'arrête, savoir comment la convention, si elle doit être partagée par tout le monde ou si de temps en temps on dit ça c'est plutôt le côté pratique qui va l'emporter et on prend des décisions tout seul entre collectif et l'individuel. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais... Mm-hmm.
Je crois que tout le monde dit à peu près les mêmes choses de différentes façons. Tous les trois posent la même question qui est au cœur de ce qu'on dit là, de toute façon. Quel est le... Tant qu'on est dans les dualités, et je ne dis pas qu'il ne s'agit pas d'éliminer les dualités. Il s'agit de les intégrer. Et il ne s'agit pas non plus de se fixer sur une non-dualité, parce que si on est fixé sur la non-dualité, on est fixé dans la dualité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours le même entre guillemets, énigme de l'instant présent. Et effectivement, les formes, quand on parle des formes, il y a toujours forme. Donc, c'est même un peu confus. De parler des formes et pas de formes, etc. Parce qu'il y a toujours des formes. Là, on parle de quelque chose de très précis qu'on a décidé de faire ensemble. Par ces rites, ces rituels, on vient tous avec nos, on vient se joindre dans ces rituels avec nos individualités, nos personnes, nos idées, pas forcément nos préférences, parce que souvent dans les rituels on s'en fiche. Parfois on peut avoir un truc, on dit oui, ce serait mieux de le faire comme ceci ou cela, mais souvent on s'en fiche si on met le cuir ici et les baguettes là, ou la baguette là et les cuirs là. Pas longtemps, on s'en fiche. Voilà. Et si vous regardez, la moitié des gens mettent la baguette en haut et les autres, la moitié, les baguettes en bas. Donc, c'est... Bon. Quelle importance, d'une certaine façon. On amène aussi nos trucs très... nos idées très fixes de... Non, la baguette doit aller en haut. Et la cuillère doit aller en bas. Et peut-être c'est utile pour une raison obscure dont on ne sait pas, mais on est fixé sur cette idée. Je sais, je raconte souvent mon histoire avec le Ryoki, que j'avais une idée très précise sur un truc. Et mon teacher m'a dit, mais just do it. Just do it. Alors, bon. L'intérêt de tout rituel, c'est qu'en viennent toutes ces personnes avec leurs idées personnelles se joignent dans un acte impersonnel, dans une activité impersonnelle. Et à travers ça, on s'abandonne, on laisse à côté notre personnel et on a accès à une expérience de l'impersonnel de l'univers. De ce qui n'est pas, ce qui ne s'agit pas de nous, de moi. C'est impersonnel. Et c'est le même pour tout rite. Toutes les traditions spirituelles, ils ont tous les rites et c'est le même idée. Ils vont pas exprimer ça comme ça, mais si on regarde, si on creuse, on étudie, c'est toujours ça. C'est pour se joindre dans un. Avoir un aperçu de ce qu'on appelle l'absolu, le non-forme, l'impersonnel, l'unité. On devient un dans ce rituel, en participant, si on s'y donne vraiment. Et même si on ne s'y donne pas vraiment, si on est juste là à chanter le truc, on ne sait pas du tout ce qu'on chante, quand même, on est là à chanter ensemble. On chante avec des autres, on prête notre voix un chanson collectif. On fait un geste, on prosterne tous ensemble. C'est un. C'est ça l'intérêt des rites. À part ça, on s'en fiche vraiment. Il n'y a pas vraiment d'autre chose. Bon, moi, il y a des gens qui vont dire que je suis profane, que c'est une hérésie. Au Vatican, je ne serai pas reçue. Hein. ni au Vatican Zen en Chine, hein, en Japon. Hein. Je ne suis déjà pas reconnue parce que je ne suis pas, je corresponde pas à les critères qu'ils ont. Je ne suis pas monastique. Mes papiers de transmission ne sont pas écrits sur le papier qu'il faut. Je n'étais pas formée par quelqu'un qui est japonais, et donc, eux, ils ne veulent pas savoir. Mais moi, je m'en fiche. Et mon teacher s'en fiche aussi. Et son maître aussi s'en fiche. Il ne s'agit pas d'avoir une accréditation du Vatican. Ces rites, on m'a transmis ces formes, et on m'a fait confiance de les transmettre. Je les transmets à mon tour. Et c'est ça la richesse de notre lignage, c'est que chacun, depuis lui là-bas, depuis 2500 ans, a transmis ça d'une façon vivante, c'est-à-dire à travers lui. Ça ne peut pas être transmis autrement. Si on va passer tout notre temps à savoir comment mettre notre robe, sinon, on ne va jamais s'asseoir. On va passer notre temps à dire, ok, il faut avoir cette robe comme ci, il faut plier comme cela, il faut être dans ce tissu-là, il faut... on ne va jamais s'asseoir. Bon, quand même, comme on dit tous les trois, on fait le point, c'est que si on ne respecte pas pour se joindre, pour que tout le monde puisse se joindre, dans ce rituel, il y a quand même quelques bornes qu'il faut. C'est comme je dis souvent avec la rivière, s'il n'y a pas des rives, il n'y a pas de rivière. C'est un flaque d'eau immense. Il faut des rives quand même. Et donc, on a des rives. Mais ils ne sont pas fixes non plus. Ça change. Et la vraie expérience, entre guillemets, vraie expérience de ces formes vient de son propre expérience. Pas de quand quelqu'un est là à dire... c'est un pas à côté, ou je ne sais pas. Évidemment, il y a des moments où il faut dire ça. C'est comme moi ce matin, quand j'ai discuté avec la personne à propos de l'histoire du bol, etc. Mais ça vient d'un endroit. Quelle est l'utilité de ça? C'est des formes que je garde. C'est vraiment, j'étais obligée, par les circonstances, à jeter toutes les formes et revoir ce qui était utile, quel était le sens de ces formes et est-ce qu'il faut les garder ou non, dans quel but, quel est l'essence de ça. Je dis par les circonstances parce que j'étais jetée dans les circonstances où j'étais avec des gens, je n'avais pas de coussin, pas d'incense, pas de Bouddha, pas de gong, je n'avais rien, je ne pouvais pas faire comme ça. Et donc, j'ai commencé à zéro. Qu'est-ce qu'on fait alors? Quelle forme on prend alors? Et au fur et à mesure, j'ajoutais des formes qui... Je prenais des formes, parce que les formes que moi j'ai prises, ceux qui ont fait avec nous, Dana, sait que c'est plus que ça. Ou Paola, dans Zendo, elle pratique à New York, c'est même plus qu'il y a Dana. C'est une autre façon de vivre la forme. C'est organique, dans le sens anglophone organique. Je ne suis pas satisfait en français, je sais que ça n'a pas le même sens en français, mais est-ce que quelqu'un a un autre mot qu'on pouvait dire en français pour ça? Organique. Je sais, on a déjà posé cette question. Mais... Organique, disons que ça vient...
Intrinsèque. Non, c'est pas le sens d'évolutif aussi. Donc, organic in the sense that it's a living thing.
Well, it's organic in the sense that it arises from the situation.
Intrinsèque. Ça a un autre sens en français?
Non, ça a plus, en français apparemment, ça a plus un sens à voir avec des organes.
Basique, fondamental.
Oui, on est peut-être ça. Par exemple, en anglais, en français, on va dire bio. Voilà. Agriculture bio, etc. En anglais, on dit organique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses ajoutées. Comme l'homéopathie, tu utilises son propre... anticorps pour se soigner. C'est tout ce qui est là, on utilise ce qui est là pour créer les formes. Ça survient de la des circonstances à la situation.
Et implique, ça suppose un manque de rigidité. C'est ça, pour moi le mot organique en anglais, c'est que c'est pas rigide. C'est ça. Il y a une souplesse. Voilà. Je trouve pas, je ne sais pas en français ce qu'on peut dire à la place.
Peut-être parce que la mentalité française est trop rigide. C'est ça que tu veux dire?
J'ai pas dit ça.
Je plaisante.
Moi aussi.
C'est comme la blague de Caroline qui est qu'est-ce que 60 millions de Français ne peuvent pas avoir? Tort. Bon. ok, bon. Peut-être on va arrêter là. Si, sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter.
Si, moi je voulais.
Oui, vas-y.
Attends, j'ai oublié. J'ai attrapé ça, j'ai oublié. Est-ce que, bon, mis à part évidemment le fait que, parce qu'on vit, on est dans la vie, il y a des formes, c'est indéniable. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on ne peut pas dire que, et peu importe que les formes soient très rituelles ou pas trop rituelles, etc., mais est-ce qu'on ne peut pas dire ultimement que les formes, c'est pour nous permettre d'être libres?
Oui, exactement. Que on est, oui, tout à fait. À l'intérieur de ces formes, on est totalement libre. Et même dire à l'intérieur, c'est que ces formes sont libres. C'est comme je disais l'autre jour à propos de la forme est vide et le vide est forme. Les formes, en fait, si on enlève tous nos concepts, toutes nos idées, tous nos attachements, toutes nos projections, nos attentes, etc., c'est vide. On le vide de toutes ces choses-là. La forme est vide. Et puis, on laisse venir de cette expérience du vide et la vraie forme, la vraie nature de cette forme émerge. De cette vide, disons, émerge et c'est forme. Mais c'est une beauté invraisemblable. La multitude de formes qui s'émergent. Et on peut apprécier toute cette multitude d'expressions du vide qui est la forme, en fait. Et donc, oui, c'est absolument... Ouais. Et c'est un exemple qui touche directement dans la pratique. Et je crois que j'ai déjà raconté ça. La première fois qu'on s'est réunis dans le centre qui est aujourd'hui le centre de mon maître, cette maison ne lui appartenait pas encore. Et on avait décidé que tous les mercredis soirs, on allait s'asseoir là, dans un grenier d'une maison qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et ça se trouve que le premier mercredi soir, elle n'était pas là. Et on était quatre à venir pour le faire, s'asseoir ensemble. Et ça se trouve qu'on était deux couples, moi et mon compagnon, et un autre couple. On était des amis. On se retrouvait dans cette situation, on n'avait jamais fait ça encore, bien qu'on avait l'expérience de s'asseoir tous, etc. Et on était gênés. On ne savait pas quoi faire. C'est-à-dire, on savait s'asseoir, mais on ne savait pas... Est-ce qu'il faut faire des périodes? De combien de temps? Est-ce qu'il faut faire de méditation marchant? Est-ce qu'il faut sonner les cloches? Est-ce qu'il faut allumer une bougie? Qu'est-ce qu'il faut faire? On était très gênés. Et ça prenait cette forme un peu embarrassée de... On avait peur de... On avait peur d'oser de sonner les cloches par peur d'apparaître rigide, bizarre, ou... c'était bizarre, c'était étrange. Et c'était le manque de forme, disons. Évidemment, il y avait une forme, mais il n'y avait pas de... On ne pouvait pas s'appuyer sur une forme habituelle, un cadre bien précis dans lequel on pouvait être libre. Et donc finalement, j'ai pris la cloche et je sonnais, mais c'était gênant. C'était très gênant. Donc oui, c'est utile, les formes, les cadres.
Je vais juste dire une chose que moi j'ai remarquée, parce que moi c'est ma première retraite. Moi j'arrive, je débarque, je connais aucun règle. J'ai tout à apprendre. Donc je suis là depuis, je sais pas, je sais, c'est 3-4 jours. Et je fais des faux pas partout. Mais j'ai constaté aussi que les règles changent au fur et à mesure. Et que les gens qui viennent pas de ce groupe ont d'autres habitudes qu'ils continuent. Par exemple, quand Aurélie était là, elle a l'habitude, quand on passe 5 minutes pour que tout le monde s'installe, nous, quand ça sonne, nous, on ne bouge pas, on ne fait rien. Et elle faisait toujours ça, elle a continué à faire, et je trouvais ça chouette. Et j'ai remarqué la même chose, Michel, elle arrive tout le temps. Elle a ses petits trucs, voilà aussi. Et j'aime bien ça dans la forme que les gens qui ont leur pratique d'où ils viennent peuvent avoir leur petit chapeau rouge ou leur truc qui leur est familier et que ça gêne pas le reste. C'est pas gênant. Et puis j'ai remarqué aussi que au début de semaine, quand on faisait les marche autour, on était à l'intérieur, devant l'auteur. Et puis tout d'un coup, ça, il faut passer derrière. Et je ne sais pas pourquoi, bon, ça ne me gêne pas. Mais il y a une sorte de fluidité qui est bien, quelque part, parce que autrement, on devient comme des soldats. C'est régimenté, ça pourrait être trop régimenté. On n'est pas des soldats, sauf dans le sens figuratif, c'est qu'on est tous dans une grande bataille, mais ça, c'est autre chose.
C'est important de remarquer ces choses et de remarquer que oui, effectivement, passer derrière et maintenant devant, etc., etc. Et qu'il y a une certaine souplesse, que ça change, etc., etc. Il y a une autre façon aussi qu'on puisse voir, c'est que si on aborde les formes avec générosité, c'est très simple. On n'a pas à réfléchir comment j'ai appris à le faire, comment je fais dans mon groupe ailleurs, etc., etc. J'observe les formes ici, je le fais comme on le fait ici. C'est très généreux, je me donne totalement. J'abandonne tout ce qui m'appartient, mes idées, mes façons de faire, etc. Et je fais comme ici. Ici étant là où je me retrouve. Donc, dans cette pièce, on était obligé d'être très généreuse et de s'adapter à cette pièce. À l'hôtel, on était obligé de faire cet hôtel en fonction de ce qu'on avait ici. Et c'est toujours, donc c'est changeant pour cette raison-là. Aussi en fonction des gens. Je crois que moi, la première fois que je nous ai vus passer derrière l'hôtel, c'est quand Dominique était là. Parce qu'avec sa chaise, ce fauteuil roulant, c'était plus facile, je crois, pour elle de passer derrière. Et on avait resté comme ça. Bon, peut-être on avait fait ça avant aussi, je ne sais pas. Mais moi, c'est la première fois que j'ai vu faire comme ça. C'est toujours en fonction. Et la souplesse vient de là. Il y a aussi que moi, j'estime, et moi, d'une certaine façon, je suis la gardienne de la forme ici. Parce que si moi, j'ai dit, fais comme ceci, les gens vont le faire. D'une certaine façon, ce que moi je dis, c'est observe, regarde comme les autres font. Quel est l'intérêt de ça? Qu'est-ce que ça te fait Quelles sont les formes que tu n'as pas envie de faire, ou que tu aimes, ou que tu n'arrives pas, ou que tu oublies? Quels sont tes questionnements là-dessus? C'est pour ça que j'apprécie énormément la discussion ce matin sur le Ryoki. C'est, regarde, ça, c'est tellement riche, ça. Et que les gens, ils ont le droit de poser ces choses-là. Rien n'est interdit, rien n'est tabou. Tout peut être dit, tout peut être présenté. Il n'y a pas de faux pas. Il n'y a pas de travers. Il n'y a pas à côté. Il n'y en a pas. Tout est utile. Tout est important dans cette optique-là. Évidemment, comme j'ai dit, si on aborde ça avec générosité, on regarde, ah oui, c'est comme ça que l'intention, c'est de le faire comme ceci. Et donc, j'observe et je le fais, je me donne. Mon maître me dit, mais ne reste pas accroché à ton histoire de ne pas mettre les bols à droite. Fais-le. Quel problème est-ce qu'il y a de mettre les bols à droite? Bon, j'avais tout un truc dans ma tête, mon attachement, mon idée de comment ça doit être. Il me dit, fais-le. Et donc, je m'ouvre et je l'offre. Je m'offre cette rituel et je le fais. Et quelle liberté! Effectivement, ça revient à ta question. Quelle liberté! Je ne suis plus esclave à ces idées que j'ai de comment ça doit être, non.